ba da ba da ba 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 da ba 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 da ba 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 da ba da ba.
On nous parle beaucoup de pandémie, HIV, cancer, grippe. Tout cela fait peur à juste titre. Mais la pandémie la plus répandue au monde est une gourgandine impie qu'il est difficile d'excommunier. Elle vous crucifie après avoir cheminé sous votre nez, en terrain miné. Elle s'invite, sans s'être présentée, et vous laisse assommer. Elle n'est pas une fatalité, non. Juste une calamité qu'on peut éradiquer. Il faut la supporter, le temps d'en divorcer et s'évader. Eh oui, on peut la répudier. Pour cela, il faut de la force, de l'envie, du désir. Et surtout, rester toujours éveillé. Car cette petite vicieuse endort les volontés et vous entraîne dans une nuit désincarnée. Au bout de laquelle, elle salit dans le regard de votre miroir et le regard des autres, le visage de votre humanité. Elle fait germer le démon du rejet dans les pauvres cervelles formatées. Mais, heureusement, fleurir la compassion dans les cœurs que l'écoute n'a pas désertés. Cette menteuse tente toujours de vous piéger, de vous faire perdre ce que rien ni personne ne peut vous enlever, si vous êtes assez fort et serein pour la conserver. Votre bonne vieille amie, la dignité. Cette pandémie a de curieux effets. Dans les zones de contamination les plus sinistrées, elle produit un torrent de solidarité donnant naissance à une grande tribu qui se lève et marche pour l'affronter. Par contre, dans les zones de contamination les mieux armées pour jouter, elle divise, exclut, rabaisse. Et pour la combattre, ne reste que le calvaire du duelliste isolé. Quand on en guérit, on a appris que tout peut arriver, qu'il n'y a pas d'abri, que la vie n'est que dans le cœur de sa dignité, pas dans l'illusion de posséder, mais dans le plaisir d'offrir, de toujours le faire sans regret, parce que tout ce qu'on prend n'est que prétentieuse futilité, parce que tout ce qu'on n'a pas su partager est dramatiquement perdu. Elle unit, elle exclut, partout, ceux qui ne sont pas infectés, dans une malheureuse majorité aveuglée, essaient de l'ignorer, de la cacher. Ils ont tort qu'ils se méfient. Ils ne sont pas protégés. Ils sont peut-être à l'aune de la puberté face à ce virus affamé. C'est la pandémie la plus répandue au monde. Son nom est pauvreté.
En 1957, Joseph Wrzesinski fonde avec des familles exclues le mouvement ATD Quart-Monde. En 1987, il relate dans un recueil les 30 années passées avec les familles du Quart-Monde. Il écrit « 30 ans de vie avec les familles du Quart-Monde ne peuvent être un trésor enfoui. Ces familles, je les ai vues, je les ai entendues, d'année en année, les enfants et leurs familles m'ont pressé pour que leur voix, leur vie et leurs larmes, leur silence, leurs peines et leurs espoirs pénètrent le monde envers et contre tout. Les enfants savent que leurs confidences peuvent changer les cœurs, les hommes, le monde. Mais en cette année 1987, année de la première journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre, le cœur des hommes aurait-il changé? À en juger par les appels et les prières qu'ils continuent de mettre sur mes lèvres, le monde semble être toujours le même. Sourd, aveugle, implacable, incapable d'amour et de justice. Pourtant, l'est-il vraiment? Je ne le pense pas. J'ai appris des enfants ce que seuls ils peuvent comprendre d'emblée. Que les hommes sont lents à aimer et à vouloir la justice. Les hommes, riches ou pauvres, ont besoin de temps pour grandir. Se faire la voix des enfants de la misère est un long apprentissage. Comme est un long apprentissage aussi d'ouvrir ses yeux et ses oreilles pour voir et entendre ce qui paraît incroyable et insupportable. Alors, écoutons cette histoire écrite par Joseph Wrzesinski. Je l'ai trouvé là, seul, assis sur un tas de planches et de cartons, au milieu de ce qui autrefois fut sa baraque. Une baraque qu'il avait construite pour s'y réfugier. Je l'ai trouvé là, tassé sur lui-même, à cause de cette solitude que lui impose la misère de ses parents. À 13 ans, Mathieu est seul, sans copains. Car lorsqu'il les voit, il a honte et se cache. Il est seul et relégué avec les siens. Car dans son quartier, personne ne le fréquente. Personne ne s'intéresse à lui. Ni à ceux qui ont honte pour les mêmes raisons que lui. Ici, jamais un instituteur qui ne vienne voir la famille. Un prêtre qui vous partagerait sa foi. Un grand frère. Un ami qui vous donnerait de son temps pour faire naître en votre cœur un peu de confiance et de bonheur. S'il se coupe des autres, ce n'est pas qu'il ne les aime pas, mais parce qu'il y a trop d'absents pour qu'il puisse croire qu'il est aimé et que les siens sont respectés. La fois précédente, je l'avais trouvé dans cette baraque qu'il avait construite, avec ses planches et ses cartons, sur lesquels il était assis, aujourd'hui. Il l'avait construite, espérant que d'autres enfants viendraient s'y asseoir. Partager avec lui ses jeux, ses rires et ses rêves, espérant que des aînés s'y retrouveraient avec eux. Il l'avait bien arrangé, sa baraque. Il l'avait meublé d'un vieux matelas en guise de fauteuil. Sur une étagère s'alignaient trois tasses. Et dans un coin, je ne vois plus très bien lequel, une vierge veillait discrètement et un calendrier indiquait le temps. La dernière fois, je m'étais assis à côté de lui et je me demandais comment nous pourrions ensemble bâtir un univers où les enfants apprendraient à lire et écrire, où les instituteurs, les prêtres et les autres, où tous les hommes seraient leurs amis. Un univers d'hommes et de femmes qui les traiteraient comme de futurs hommes et que les enfants de la misère n'auraient plus à fuir. Dans la baraque était pendue aussi une assiette sur laquelle était écrit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Or, ce pain n'était pas donné à tous les enfants du monde. Pour les plus pauvres, le pain quotidien, c'est la honte et la misère. Pour Mathieu, son pain, c'est l'absence et la solitude. Pourquoi avait-il abandonné son rêve et cassé sa baraque? Je lui ai demandé. J'ai trop attendu, m'a-t-il dit. Il avait attendu que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de lui. Quelqu'un du voisinage ou d'ailleurs, qui aurait été amené là par son cœur, qui aurait senti qu'en cet enfant, c'était des millions d'enfants qui attendaient ainsi en vain, en espérant. Mais personne n'est venu. Alors Mathieu a détruit son refuge. Il ne servait à rien. Puisqu'il n'abritait nulle amitié, puisqu'il ne comblait pas sa solitude. Il était comme une crèche vide, dont les mages et les bergers n'avaient pas trouvé le chemin.
Le 3 octobre 2009, j'ai participé à une rencontre débat avec des personnalités engagées dans des actions non violentes de lutte contre la pauvreté. Raja Gopal et Louis Campana de Grandi International étaient présents. Le matin, nous avons assisté à la projection d'un film « La marche des gueux » sur la grande marche de Jana Desch en 2007, réalisée par Louis Campana. On a le souffle coupé. Dès les premières images, on reste sans voix. 2500 personnes préparent un projet de marche contre la pauvreté pour récupérer des lopins de terre, pris illégalement par une dictature contre le peuple. Pour leur survie, ils marcheront pendant plusieurs semaines avec une tonne de nourriture donnée par des fermiers riches, solidaires. Marche pour faire bouger le gouvernement endormi, pour faire valoir leurs droits, affrontant un soleil terrible, la poussière, la faim, la soif, avec un seul repas par jour. Chaque pas fut un grand saut vers l'avenir. À la fin de la marche, le 30 octobre, le gouvernement leur a promis de leur donner des parcelles de terre. Enfin la victoire. Après le film, un débat fut mis en place. 1000 questions furent posées à Rajagopal. Rajagopal. Ces questions étaient traduites en anglais par Myriam, merveilleuse interprète. Rajagopal nous a émus par sa simplicité, son grand cœur. Des réponses simples qui nous ont fait réfléchir. Il répond, plus les esprits sont remplis par l'appât du profit, plus le cœur est si petit. Dans les pays dits civilisés et modernes, il n'y a plus de communauté, pas de famille, pas de lien, pas de partage. Et l'individualisme est grand. Seul, on n'arrive à rien. Il semble très marqué par cette manière de vivre. Vers 12h30, nous sommes retrouvés autour d'un buffet préparé par tous. L'après-midi, nous avons réfléchi avec le collectif pour la dignité et contre la pauvreté, avec des personnes en situation de pauvreté. À Lyon, une marche est prévue du 30 juin au 3 juillet 2010 pour défendre le pouvoir d'achat, lutter contre l'exclusion des pauvres et de nombreuses personnes pauvres dans notre pays, dénoncer la grande précarité, tout cela sans violence, et changer les mentalités. Que faire pour lutter ensemble contre la pauvreté? À la fin de notre concertation, le résultat est flagrant, s'impose. La solidarité doit être inventive. Il faut se regrouper pour trouver des solutions, échanger les idées, les mettre en commun. Des épaules d'affiches ont été réalisées pour ponctuer la marche. Par exemple, si on continue comme ça, si je dois me taire, je vais exploser. Touche pas à ma dignité. La santé n'est pas une marchandise. Cette journée s'est terminée dans l'espoir de ne plus être seule, ni exclue, de voir le bout du tunnel, et avec beaucoup d'espoir dans cette marche du 30 juin 2010.
Aujourd'hui, merci à Jacques et à Daniel de nous avoir raconté leurs mots du cœur.